Bonjour Jean-Pierre Chevènement.
Bonjour.
Ancien ministre, président aujourd'hui de la Fondation Res Publica. On l'entendait à l'instant dans cette annonce d'une émission à venir sur France Culture à midi par Hervé Gardette. Et vous avez vous-même réagi dans ce journal à cette question qui a trait au maintien de l'ordre aujourd'hui en France et à ce que certains appellent les violences policières, terme toujours réfuté par le gouvernement, le ministre de l'Intérieur et le président. La France a été épinglée, Jean-Pierre Chevènement, pour sa gestion du maintien de l'ordre et ce que d'aucuns à l'étranger aussi appellent les violences policières. Les derniers drames sont quand même remarqués. La mort d'un homme à la suite d'un plaquage ventral par 3 policiers et un tir de LBD à bout portant par un policier durant la manifestation à Paris de jeudi, ce qui était évoqué dans le journal. Une enquête a été ouverte. Vous disiez la police est là pour maintenir l'ordre public, même la tranquillité. On les appelle parfois les gardiens de la paix. Est-ce que malgré tout, aujourd'hui, il se passe quelque chose qui est de l'ordre, comment dire, d'une responsabilité de l'encadrement ou de la formation de la police pour en arriver à de telles violences, ou ça s'explique par une réaction de défense de ces mêmes personnels de police, selon vous?
C'est une question qu'il faut traiter avec objectivité et sang-froid. Il y a dans notre pays une tradition de maintien de l'ordre qui remonte aux grèves insurrectionnelles de 1948, les CRS créées par Jules Moc à l'époque, auxquelles se sont ajoutées naturellement les compagnies de gendarmes mobiles. Ce sont des conceptions de maintien de l'ordre qui traditionnellement prévalent dans notre pays. Je vais essayer d'introduire comme ministre de l'Intérieur la police de proximité de façon à modifier le rapport entre la police et la population sans pour autant contester que quelquefois leur recours à l'action forte à travers les BAC, les brigades anti-criminalité, ne soit nécessaire. Elle est nécessaire parce que la délinquance que nous affrontons peut être extrêmement violente. Et on a observé un crescendo, historiquement, je dirais de 1965 à 1982, il y a une croissance de la délinquance, une stabilisation pendant une dizaine d'années, puis à nouveau des violences, mais revêtant un caractère beaucoup plus, je dirais, insupportable. C'était les violences urbaines de 2005. Qui a déjà été l'occasion d'affrontements entre la police et des éléments que je me refuse de qualifier de jeunes, parce que le mot jeune m'exaspère d'une certaine manière. Tous les jeunes.
Tout un temps, vous appelez ça des sauvageons.
Alors, j'ai parlé un jour de sauvageons parce que.
Ça restait.
Ils manquaient d'éducation. On les avait flanqués devant un poste de télé à l'âge de 4 ans et on avait oublié de les éduquer, de sorte que, naturellement, ils se comportaient d'une manière telle que ça pouvait dégénérer. C'était à l'occasion du meurtre d'une épicière par un jeune garçon de 14 ans. J'ai qualifié ce jeune garçon de sauvageon parce qu'il manquait d'éducation. Et un sauvageon, je le rappelle, en bon français, c'est un arbre non greffé qui court à même le sol, qui n'a pas de tuteur.
Donc vous persistez, vous assumez encore
oui,
aujourd'hui,
mais l'époque est différente. Je pense que la dimension de l'éducation est essentielle. On ne peut pas parler de sûreté, de sécurité, sans parler aussi de citoyenneté, de civilité. Et j'observe que tout cela s'est beaucoup dégradé. On a vu des actions très violentes contre la police, 2 policiers qui ont failli brûler dans leur voiture. Je vois que certaines manifestations dégénèrent, j'ai de cocktails Molotov, j'ai de barres de fer, et il y a des éléments violents qui s'introduisent dans certaines manifestations, par exemple les gilets jaunes, mais ça a pu être le cas aussi hier, qui ne font pas partie des manifestants, des syndicalistes, mais qui sont des gens qui s'en prennent directement à la police. Donc il a fallu modifier la doctrine de maintien de l'ordre. C'est récent. Ça a été la tâche du nouveau préfet de police et du nouveau ministre de l'Intérieur. Enfin, il est là depuis maintenant à peu près un an.
Je sais bien qu'il est tradition, Jean-Pierre Chevènement, qu'un ministre de l'Intérieur ne critique pas ses prédécesseurs, ni ses successeurs d'ailleurs. Mais comme vous avez quand même été un ministre de l'Intérieur au tournant des années 2000, je ne dis pas qu'il y a prescription, mais ça remonte à un certain nombre d'années. Le ministre de l'Intérieur lui-même reconnaît aujourd'hui qu'il y a peut-être un problème dans la doctrine du maintien de l'ordre, à force de voir peut-être ses vidéos circuler ou d'être encore une fois épinglé par nos partenaires européens et étrangers. Il doit ouvrir aujourd'hui même, place Beauvau, une conférence citoyenne dans le cadre du livre blanc de la sécurité intérieure pour réfléchir à la place de la police dans la société. Donc on constate en tous les cas que de part et d'autre, puisqu'effectivement, vous le dites vous-même, il y a une grande défiance aussi envers la police. Vous le rappeliez il y a 5 ans.
Il y a une défiance généralisée.
La police était applaudie.
Notre société est une société de défiance. Une société suspicieuse où la parole publique n'a plus beaucoup de poids. C'est le discrédit des politiques qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes organisé. Mais nous sommes arrivés dans une situation où le dialogue devient très difficile parce qu'on n'accorde plus d'importance à la parole de l'autre. Et la parole donnée est immédiatement révoquée en doute. De sorte que la crise que nous vivons, par exemple sur les retraites, n'est pas seulement une crise sur les retraites, c'est une crise de contestation du pouvoir. Quand j'entends Monsieur Martinez dire que l'objectif du mouvement, c'est le retrait pur et simple de la réforme sur la retraite, on voit bien qu'on est dans des mondes totalement différents. On ne discute plus sur les retraites, on discute sur la République elle-même. Faut-il une 6e République, par exemple? Mais c'est un autre sujet.
Dans la rue, les gens manifestent contre la réforme des retraites, pas pour une 6e République.
C'est tout à fait complexe de savoir pourquoi les gens manifestent. D'abord, les mots d'ordre sont très différents. Le mot d'ordre de la CFDT de Laurent Berger, c'est le retrait de la notion d'âge pivot. On ne comprend pas toujours très bien ce que ça veut dire. Un mot pourrait se substituer à l'autre. Le mot d'ordre de M. Martinez ou de la CGTFO, c'est le retrait pur et simple du projet. Or, il se trouve que le président de la République a été élu. Il était élu sur un programme, il a mis en avant un projet de retraite universelle, c'est-à-dire permettant la prise en compte de toutes les séquences de travail, même si les carrières sont aujourd'hui beaucoup plus discontinues qu'elles ne l'étaient autrefois. Et ça, c'est une bonne idée, je crois qu'il faut le dire. L'idée d'une retraite universelle, ça va dans le sens de la réalité d'une plus grande justice possible. Ce n'est pas acquis, parce qu'en même temps, il y a une question d'équilibre. Or, on ne parle jamais des conditions qui permettraient d'équilibrer les régimes de retraite. Il faut une économie qui soit en forme, en croissance. Il faut des cotisants toujours plus nombreux. Mais je fais observer que depuis 10 ans, nous avons perdu 70 000 naissances par an du fait d'une certaine politique visant à limiter les avantages de la politique familiale. 70 000 personnes par an, sur 10 ans, ça fait 700 000 cotisants de moins. Donc il faut intégrer toutes ces données si on veut parvenir à l'équilibre. Tout le monde apparemment est pour l'équilibre. Monsieur Berger a dit qu'il ne contestait pas la nécessité de l'équilibre, il conteste l'âge pivot. Bon, s'il y a d'autres manières de parvenir à l'équilibre, qu'il nous l'explique aussi. En fait, il y a trois façons de parvenir à l'équilibre. Baisser les pensions, le président de la République l'exclut formellement. Hausser les cotisations. Le patronat est tout à fait contre. Il considère que ça nuirait à la compétitivité de l'économie française. Alors, allonger la durée du travail, mais dans quelles conditions, pour qui? Il est évident que les situations sont très différentes d'une profession à l'autre. Il y a des espérances de vie qui ne sont pas les mêmes pour des ouvriers qui portent des charges, et puis d'autre part, pour des cadres supérieurs.
Jean-Pierre Chevènement, on est dans un conflit social qui apparaît aujourd'hui comme le plus long depuis mai 68. Quel conseil donneriez-vous pour sortir du conflit, de ce bras de fer sans fin, comme le titrait le journal Libération hier? Qui doit céder?
Je dirais que le gouvernement a fait quand même des concessions. Il se prépare à soumettre une rédaction aux organisations syndicales. Je pense pour ma part que la colère qui s'exprime vient de plus loin. Et elle a des racines plus anciennes. Elle vient de ce que les citoyens se sentent de plus en plus méprisés. Rappelez-vous du référendum sur la Constitution européenne, le projet constitutionnel.
2005,
le gouvernement s'est assis dessus. On a passé un traité de Lisbonne qui reprenait la substance même de ce traité. Et par accord entre M. Hollande et M. Sarkozy, le Congrès à Versailles a approuvé ce que le peuple avait rejeté. Ça crée de la défiance. Et d'une manière générale, mon observation va plus loin. Nous avons des élites technocratiques, souvent arrogantes, sûres d'elles-mêmes, qui ne sont pas prêtes à avoir une discussion raisonnable, argumentée. Les espaces du délibératif se sont restreints terriblement dans notre société. Prenons même l'exemple des débats publics à la radio, à la télévision. C'était monnaie courante il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, quasiment, ça a disparu. Donc, l'argumentation, qui est le fond de la démocratie, c'est un espace de débat à la lumière de la raison, où on écoute l'autre, on tient compte de ce qu'il y a de juste, il y a ce qu'on appelle un débat républicain, et puis le cas échéant, il y a le suffrage universel qui arbitre. Mais tout ça, c'est une conception de la citoyenneté, d'une citoyenneté formée par l'école, de citoyens ayant acquis l'exercice raisonné de la critique, pas l'esprit de critique, l'esprit critique, le sens de l'intérêt général, mais tout ça c'est un peu perdu. Je lisais hier un manifestant qui parlait d'une grève d'intérêt public. On ne peut pas dire qu'une grève c'est d'intérêt public. Hein. Peut-être qu'ils ont le sentiment de participer à la définition d'intérêt public, ça je veux bien. Mais aucune grève ne peut être qualifiée comme telle d'intérêt public. Hein. Alors il faut s'écouter. Et il faut que, naturellement, les élites fassent le premier pas. Parce que il y a une crise des élites dont on ne parle pas suffisamment dans notre pays, qui remonte à il y a une bonne trentaine d'années. Disons que ces élites se sont affranchies des règles et des bandelettes qui contenaient leurs appétits.
Le gouvernement a fait un pas, si je vous suis bien, mais passe et il reste quand même sourd aux revendications des manifestants, des grévistes, pour qu'on en soit encore aujourd'hui
dans
une situation aussi bloquée.
Il faut distinguer le sujet des retraites, sur lequel je pense qu'un accord est possible, et un sujet plus général, c'est la démocratie en France. Comment s'exerce-t-elle ?
Est-ce que vous trouvez, par exemple, Jean-Pierre Chevènement, que c'est une bonne chose que le président de la République, qui pour l'instant sur ces sujets-là reste discret, certains reprochent même au président de ne pas s'exprimer assez, mais est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose qu'il aille, par exemple, devant un panel de citoyens, comme il l'a fait hier soir pour la Convention citoyenne sur le climat, entendre ce qu'ont à dire les citoyens, discuter avec eux, mais avant tout les entendre.
Oui, je mets à son crédit.
Ou est-ce que c'est une façon de parader, comme certains le lui reprochent ?
Oui, mais si vous voulez, c'est là qu'on est dans une société de défiance. Le président de la République est élu, on doit avoir un certain respect pour sa fonction. Ce respect n'existe pas du tout. Il y a des réactions de rejet d'une extrême violence qui, moi, me surprennent beaucoup, parce qu'on peut être contre M. Macron. Mais il y a des occasions de le manifester. Il y a des élections qui sont prévues. Mais on ne peut pas faire reposer sur lui seul tout ce qui est très contestable, en effet, dans la manière dont nous sommes aujourd'hui dirigés par des gens qui n'ont pas une capacité d'écoute considérable. Je pense que la démocratie est à revoir dans notre pays.
Vous qui êtes, Jean-Pierre Chevènement, sensible à l'argumentation, au débat d'idées, j'ai sous les yeux une tribune signée hier par un collectif d'intellectuels, parmi lesquels on trouve la philosophe Judith Butler, l'historien Christophe Charles, l'écrivain Jean-Marie Laclaftine, l'écrivaine Annie Ernaux, ou encore l'anthropologue Didier Fassin. Cette tribune est intitulée « Carton rouge contre la révolution conservatrice d'Emmanuel Macron » et elle dit la chose suivante « Les réformes du président décivilisent ». En place des solidarités d'hier, écrivent les signataires, elles produisent partout du chacun seul, que ce soit la réforme Blanquer du bac qui rend les élèves chacun seul face à des orientations où joue d'abord le capital culturel hérité ou pas, chacun seul les usagers des services publics, chacun seul les chômeurs, et qui appelle ces intellectuels à recréer un sens du collectif. Qu'en pensez-vous ?
Recréer un sens du collectif, qui ne serait pour ? Mais faire tout reposer sur le président de la République, comme si cette crise n'était pas plus profonde, n'avait pas des racines plus anciennes. Je rappelle que nous sommes dans un cycle néolibéral qui approche de sa fin. Et on en voit toutes les manifestations dans la guerre commerciale sino-américaine, dans la stagnation du commerce mondial, dans le fait que il y a un retour des États, il y a dans les populations de l'Europe de l'Ouest en tout cas, un désir de protection, on ne peut pas à la fois élargir la palette des choix et dire c'est une montée insupportable de l'individualisme. Le fait que des élèves de lycée puissent choisir telle ou telle option, ça n'a rien de criminel. Enfin, je pense qu'il faut aussi savoir raison garder.
Et on retrouve notre invité, ancien ministre de l'Intérieur, de la Défense, de l'Éducation nationale, Jean-Pierre Chevènement, aujourd'hui président de la Fondation Respublica. Jean-Pierre Chevènement, vous l'évoquiez tout à l'heure à propos du renversement d'attitude par rapport à la police. Il y a 5 ans, jour pour jour, nous sommes le 11 janvier aujourd'hui, il y avait une manifestation dont l'esprit était « Je suis Charlie ». Qu'est-ce que vous gardez de ce moment ?
C'était une manifestation formidable, des millions de Parisiens qui s'étaient réunis pour proclamer l'horreur du crime et surtout l'attachement à la liberté de pensée, à la liberté d'expression. Je pense que ça fait partie des valeurs auxquelles nous tenons. Il faut que chacun puisse s'exprimer, qu'on l'écoute et qu'on tienne compte de lui. Et c'est une partie de notre civilisation. Donc moi, je me range clairement du côté de ceux qui ont pensé qu'il fallait manifester à ce moment-là. Et j'entends bien qu'il y a des injustices commises à l'égard du monde arabo-musulman. J'entends bien qu'il y a un passé qui est lourd de ressentiments, qui vient de la colonisation, des comportements impérialistes de l'Occident. Mais ce qui se passe dans le monde musulman ne se réduit pas aux ingérences extérieures. Il y a aussi des causes endogènes d'un certain retour de l'obscurantisme. Par conséquent, il faut être ferme sur nos principes. Nous avons des principes qui sont ceux de la République et nous devons les maintenir en France parce que c'est la condition, je dirais, de l'intégration à la communauté des citoyens, de citoyens venus d'ailleurs, par exemple.
Le ministre actuel de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a signé une tribune rappelant ce qu'était ce moment et il écrit « La mémoire des attentats de janvier 2015 nous dicte un impératif absolu dans la mesure où la République aujourd'hui est encore menacée. Il écrit qu'il faut une stratégie de reconquête des cœurs et des esprits par l'idéal universaliste européen. » Vous qui êtes en général assez d'accord avec Jean-Michel Blanquer, en on va parler de l'école dans un instant. Est-ce que vous souscrivez à ce qu'il écrit là ?
Oui, l'universalisme, je ne le qualifierai pas d'européen. L'universalisme, il se définit par lui-même. Il est mondial. Ça ne concerne pas particulièrement l'Europe. Bien sûr, nous avons en Europe un héritage qui est celui de l'Antiquité, du christianisme, du mouvement des Lumières. Mais le mouvement des Lumières, il s'est épanoui aussi en Amérique du Sud. Il s'est épanoui dans des pays comme l'Afrique du Sud. Disons que c'est un problème qui se pose partout. Donc nous devons être fermes sur nos principes, qu'il s'agisse de la liberté de pensée, de la liberté religieuse, y compris du droit au blasphème, qui, moi, peut me choquer à titre personnel, mais en même temps, je reconnais le droit, par exemple, qu'avaient les dessinateurs de Charlie Hebdo de faire les caricatures qu'ils ont faites. Et puis, voilà, il faut l'accepter. Nous ne sommes pas sortis de cette immense difficulté, parce que coexistent à la surface de la Terre des gens qui ont des sensibilités très différentes. Huntington a parlé de guerre de civilisation. Il a même ajouté que la première guerre de civilisation avait été la guerre du Golfe, où j'étais ministre de la Défense et où j'ai tiré les conséquences de ce que je pensais. Je pense que cette guerre aurait pu être évitée, qu'on aurait évité par la même tout ce qui a suivi, c'est-à-dire une deuxième guerre, la destruction de l'État irakien, Al-Qaïda et Daesh. Donc tout cela, ce sont des séquences lourdes. Et entre le monde arabo-musulman et l'Occident, il y a un contentieux, il y a des ressentiments. Et c'est tout cela aussi qu'il faut essayer de purger si on veut faire que l'avenir du monde ne soit pas celui de la violence sous toutes ses formes, violence sociale, violence sous forme de guerre civile, peut-être même de guerre tout court. On n'en est pas si loin au Moyen-Orient.
Jean-Pierre Chevènement, est-ce que le rappel des principes auxquels vous êtes attaché passe également par un certain nombre de valeurs comme celle des libertés publiques ? Je vous pose la question parce que l'avocat François Sureau a écrit et s'est exprimé publiquement sur la question pour dire que depuis les attentats de 2015 et ce qui a suivi, nos libertés publiques étaient en danger, qu'on assiste à la restriction de l'état de droit, restriction des libertés liées à l'état d'urgence, présence dans nos rues de forces de l'ordre dotés d'armes de guerre, loi anti-casseurs conduisant à considérer le citoyen libre comme un délinquant en puissance, loi anti-fake news sanctionnant les contenus a priori, loi contre les contenus haineux et qui a du mal à passer, on l'a vu encore cette semaine, qui encourage les opérateurs privés d'Internet à la censure. Voilà tout ce que cite par exemple l'avocat François Sureau pour démontrer que nos libertés publiques aujourd'hui sont en danger et qu'il faut réaffirmer ces valeurs.
Alors, d'une part, je voudrais dire mon accord avec François Sureau, la liberté doit toujours primer. Pour moi, c'est très important que nous restions dans une société de liberté et qu'on ne veuille pas réglementer dans le détail, à tout propos et tout sujet, la manière dont les individus doivent se comporter, en les taxant, en les réglementant, etc. Ça devient insupportable. Donc, il faut rappeler que le fondement de notre société est la liberté. Maintenant, le mot « état de droit » est chargé d'ambiguïté. On prétend, au nom de l'état de droit, restreindre le champ de l'expression démocratique, le domaine de la loi. On lui oppose de plus en plus des jurisprudences, qu'elles soient nationales ou européennes, ou des décisions d'autorités administratives indépendantes. Et on arrive aussi par le mécanisme de la délégation de compétences très larges à l'Union européenne, à faire en sorte que nous soyons régis par une législation qui n'est pas du tout élaborée de manière démocratique, qui est décidée par des experts non élus, je pense les commissaires européens, les juges européens, la Banque centrale européenne, ce sont des gens non élus. Et le Parlement européen lui-même n'est pas un Parlement, si j'en crois le tribunal constitutionnel de Karlsruhe. Non, mais l'Europe ajoute à cela. Il n'y a pas que l'Europe. Je vais commencer par dire qu'il y avait les autorités administratives indépendantes, et il y en a une quarantaine. Ce n'est pas rien. Qui, naturellement, s'arroge un pouvoir qui n'est plus celui du Parlement. Et puis, j'ai parlé des jurisprudences. J'aurais pu parler de la jurisprudence du Conseil d'État, de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel, de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme. Tout ça, ça fait quand même beaucoup de choses. Et par conséquent, l'espace de la loi, l'espace du débat démocratique, se restreint. Et c'est ce caractère étouffant d'un certain nombre de dispositions qui est souvent mis en cause par des gens qui disent on ne sait plus qui décide, qui est responsable, au nom de qui sont prises tant de décisions.
Donc c'est un problème plus structurel, organisationnel, institutionnel qu'un problème politique ou conjoncturel.
C'est un problème politique parce qu'il a accompagné les progrès du néolibéralisme, c'est-à-dire cette croyance en l'efficience des marchés, cette substitution à la loi d'une régulation à la réglementation d'une forme de fausse autonomie, de direction par objectif. Tout ça a été très bien décrit par Alain Supiot, professeur au Collège de France, dans un livre intitulé, si je me souviens bien, « La gouvernance par les nombres », où il montre bien comment, à partir d'une utopie libérale du tout marché, du marché total et d'un monde plat, qui serait fait de particules contractantes, on est arrivé à un univers stressant, insécure, angoissant, qui amène les gens à se chercher des protecteurs, et on va, au nom de la liberté, vers un monde de servitude. Donc je conseille vivement la lecture de ce
finalement,
livre.
Finalement, vous rejoignez Jean-Pierre Chevènement, le collectif d'intellectuels que je citais tout à l'heure, qui reproche, alors là en l'occurrence c'est au gouvernement actuel, mais manifestement ils vont plus loin, à ce monde d'aller vers le chacun pour soi, le chacun seul, et cette servitude au service justement d'un nombre, d'une rentabilité ou que sais-je encore.
Oui, mais alors ça me paraissait un peu trop dirigé.
Je vais vous la donner à lire.
Alors donnez-la-moi à lire parce que je l'ai.
Vous allez repartir avec, et nos auditeurs peuvent aussi également la lire. Elle s'appelle « Carton rouge contre la révolution conservatrice d'Emmanuel Macron ». Elle part de là, mais ça c'est le titre de Libération. La chronique, la tribune va un peu plus loin. Mais sortons de...
Mais est-ce qu'on n'assimile pas justement cette évolution que je viens de décrire à Emmanuel Macron et à sa politique? Moi, je crois que ça vient de beaucoup plus loin, parce que le phénomène du néolibéralisme, il s'est installé au début des années 80, mais il a ses racines dans l'alliance avec la Chine de Deng Xiaoping.
Disons que pour ses détracteurs, il ne rompt pas avec cette politique-là, si je les suis.
Ah, est-ce qu'il rompt ou est-ce qu'il ne rompt pas? Ça, c'est une question.
Il n'en est pas responsable, mais disons qu'il ne rompt pas.
C'est une question vraiment
intéressante. Il était porteur d'une rupture de civilisation.
On peut dire qu'au départ, sa politique était très conformiste. Il s'agissait de mettre ses pas dans les clous de Maastricht et d'attendre de l'Allemagne une relance qui n'est pas venue. Donc on peut dire que la première politique définie par Emmanuel Macron n'a pas marché. Mais il me semble qu'il utilise des voies de contournement intéressantes. Je vais en citer deux. D'une part, au niveau des responsabilités européennes, l'utilisation astucieuse d'un troisième parti a enlevé le monopole qu'ils exerçaient au Parti socialiste européen et au Parti populaire européen, c'est-à-dire à cette alliance, à cette grande coalition de la droite et de la gauche supposée qui faisait qu'en réalité le Parlement européen n'était que la chambre d'enregistrement de décisions prises à Berlin. Pour dire très clairement les choses. Or, Emmanuel Macron a eu l'astuce d'introduire une nouvelle composante qui fait qu'aujourd'hui, le PPE et le PSE n'ont plus, le monopole de la décision. Et par conséquent, on a vu une certaine redistribution des cartes. Au lieu du Spitzenkandidat qui ne figure dans aucun traité, c'est-à-dire l'homme leader du parti qui a eu le plus de voix, c'était M. Manfred Weber. On a eu Mme Ursula von der Leyen, c'est une Allemande également, mais elle a fait l'objet d'un consensus entre les dirigeants européens. Et surtout, à la tête de la Banque Centrale Européenne, on a mis Mme Lagarde, dont les idées sont considérablement différentes de celles de M. Weidmann, qui est le président de la Bundesbank. Et on sait que la politique monétaire est un enjeu majeur.
Donc cette malice dont vous parlez d'Emmanuel Macron, il l'a arrêtée en chemin ?
On peut dire que on va voir comment ça se développe. Mais si la création monétaire à laquelle procède la Banque Centrale Européenne est dirigée vers l'investissement et vers la production, ça, ce sera une très bonne nouvelle. Mais je ne me fais pas d'illusions, je connais la difficulté de la tâche politique. Il faut convaincre, et principalement convaincre notre partenaire allemand. Deuxième inflexion, la Russie. On ne peut rien faire contre le terrorisme à l'échelle mondiale si on ne travaille pas en concertation avec la Russie. Et je pense que ce rapprochement entre la France et la Russie permet de poser d'une manière positive le problème de la pacification future du Moyen-Orient, hein, à moins qu'on veuille que ça explose.
Hein. Et vous êtes bien placé, Jean-Pierre Chevènement, pour le savoir, puisque vous êtes représentant de la France auprès de la Russie.
Disons que j'ai essayé de maintenir les contacts. Et je suis pour quelque chose dans ce qu'on a appelé le format de Normandie, qui permettra, je l'espère, de désamorcer le conflit ukrainien, de faire en sorte qu'on applique les accords de Minsk et qu'il y ait en Europe une architecture de sécurité, comme dit le président de la République, qui ne soit pas un retour à la course aux armements comme au temps de la guerre froide.
Donc pour vous, l'âge pivot, vous ne le connaissez pas, hein ? Il n'est pas temps de prendre votre retraite à 80 ans, Jean-Pierre Chevènement.
Eh bien, écoutez, je suis de ceux qui pensent que pour rester en bonne santé, il faut toujours faire comme avant.
8h47 sur France Culture. Surtout, restez avec nous pour le dernier quart d'heure de ces matins du samedi de France Culture.